100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Non-assistance à personne en danger, plus que tout autre citoyen, les mineurs font les frais des manques de l'État, des errements de l'administration ou des associations. Et ce sont les enfants des familles pauvres, fragilisées ou défaillantes, qui sont les premières victimes. En Turquie, un ouvrage glaçant, écrit par le journaliste Ismail Saymaz, dénonce la république de ceux qui n'ont personne. On retrouve à Istanbul notre correspondante Anne Andlauer. Bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Anne, il s'agit tout d'abord d'une enquête précise sur 5 drames survenus dans des pensionnats pour mineurs en Anatolie, dans l'est du pays.
Oui, 5 faits divers qui ont défrayé la chronique, mais qui choquent et qui émeuvent toujours autant lorsqu'ils sont ainsi racontés en détail, sous la plume du journaliste, des années plus tard. Il y a eu la mort en 2008 de 18 filles, dont 16 avaient entre 11 et 15 ans, dans l'incendie de leur dortoir à Konya. En 2012, le bras déchiqueté de Nourettin, 12 ans, qu'on avait fait hacher de la viande dans un pensionnat de Kütahya. La mort de 11 enfants et d'une adulte dans un autre incendie à Adana en 2016. Et comment oublier ce scandale d'abus sexuels et de viols sur 10 garçons de 12 à 14 ans par un instituteur de la fondation religieuse Ensar, très proche du parti au pouvoir. Ou cette autre affaire de pédophilie sur 18 garçons de 10 à 15 ans dans un pensionnat d'Adıyaman.
Et si le journaliste a choisi de traiter ces affaires ensemble et de leur consacrer un livre, c'est qu'au-delà du fait que les victimes sont des enfants, d'autres points communs les rassemblent, Anne.
En effet, ce sont tous des enfants de familles pauvres, souvent trop pauvres pour les envoyer à l'école, parfois tout simplement parce que le transport quotidien entre la maison et l'école leur coûterait trop cher. Des enfants de familles pauvres, mais aussi, et c'est important, de familles pieuses. Et c'est là qu'interviennent, c'est là que s'immiscent ou s'engouffrent, a-t-on envie de dire, des communautés religieuses qui se présentent devant les parents avec une proposition alléchante. Héberger les enfants gratuitement dans une sorte de pensionnat, non mixte évidemment, proche de leur école, les nourrir, les blanchir tout aussi gratuitement et leur offrir, en dehors des cours, une éducation religieuse, musulmane, sunnite bien sûr. Alors parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, parce que l'État ne leur en offre pas d'autre, ces familles font confiance à ceux qu'elles considèrent comme des bienfaiteurs, des personnes pieuses comme elles qui, pensent-elles, vont permettre la réussite scolaire de leurs enfants. Parfois c'est le cas et parfois cela tourne au drame.
Et l'enquête s'intéresse à une communauté en particulier.
Oui, à celle des Süleymancılar, du nom de Süleyman Hilmi Tunahan, né en 1888 et qui fonda en 1951 son premier établissement d'enseignement du Coran avant de prospérer au fil des décennies dans toute l'Anatolie. Ce n'est pas la seule. Selon une étude universitaire, la Turquie compte une trentaine de communautés islamiques, chacune fondée et dirigée par un religieux différent, qui jouissent d'un réseau de fidèles et gèrent des centaines d'établissements à travers tout le pays. On estime ainsi que plus de 2,5 millions de Turcs entretiennent des liens avec l'une de ces communautés, qu'ils s'impliquent directement dans ces activités ou qu'ils se contentent par exemple de se rendre dans une mosquée liée à leur communauté et d'y nouer des relations sociales. Les Süleymancılar comptent parmi les plus puissants et les mieux organisés. Leurs membres et dirigeants ont connu des sorts divers selon les époques, la répression notamment à chaque coup d'état militaire. Mais l'enquête d'Ismail Saymaz montre que depuis l'arrivée au pouvoir du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP de Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président, eh bien les Süleymancılar et les autres bénéficient de la bienveillance, voire de la complaisance des autorités.
Et pour chaque drame survenu dans un pensionnat de ces communautés, le journaliste démontre la responsabilité des autorités, qui ne sont pourtant jamais mises en cause.
Oui, c'est toujours la même triste histoire. Après chaque incendie, on s'aperçoit que le bâtiment n'était absolument pas aux normes, mais qu'il avait bénéficié d'un avis positif, de pure complaisance lors des inspections officielles. Après chaque scandale de pédophilie, on se rend compte que le violeur aurait pu être arrêté bien plus tôt si des signaux ou des alertes avaient été pris en compte. Et puis, après chaque drame, on constate que les punitions sont minimes ou limitées à un très petit nombre de personnes sans jamais interroger les mécanismes, les manquements de l'État ou les complaisances qui ont permis à ces drames d'arriver. Bâtiments illégaux, employés non déclarés, enfants trop jeunes pour être accueillis en pensionnat privé, Texte de loi avantageux, fonctionnaire de l'éducation nationale qui pousse les familles dans les bras de ces communautés religieuses, soit par manque d'établissements publics, soit parce que ces fonctionnaires appartiennent eux-mêmes à ces groupements religieux. Les scandales s'imbriquent en fait les uns dans les autres au détriment des enfants.
Et au fil des pages, l'auteur démontre donc comment l'État turc, au motif d'éduquer une génération pieuse, selon la formule devenue célèbre de Recep Tayyip Erdogan, abandonne ses enfants à des communautés parfois sans scrupules.
Oui, et comment ces communautés font pression sur les familles et même sur les enfants pour qu'ils mentent et pour que le scandale ne les éclabousse pas. D'ailleurs, aussi révoltant que cela puisse paraître, dans les 5 drames cités, la plupart des parents ont renoncé à porter plainte alors que leur enfant est mort ou a été violé. Le titre du livre d'Ismail Saïmaz, « La République de ceux qui n'ont personne », se réfère à 2 phrases célèbres de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République en 1923, celui qui a aboli le califat, inscrit la laïcité dans la Constitution et interdit à l'époque toutes les communautés et les écoles religieuses. « La République de Turquie ne peut pas être le pays des cheikhs, des derviches ou des disciples », disait-il. Elle doit, disait-il aussi, être le quelqu'un de ceux qui n'ont personne.
La République de ceux qui n'ont personne, d'Ismail Saïmaz, est parue en Turquie aux éditions Hilyet İşim. Merci Anand Lauer à Istanbul, à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et en Irlande, c'est l'église catholique qui a été au cœur de tous les scandales pour abus sexuels sur mineurs au début des années 2000. Scandales qui se poursuivent aujourd'hui avec une récente enquête interne sur les sévices pratiqués au sein des scouts irlandais. Mais les organes du gouvernement ne sont pas épargnés puisque c'est désormais l'agence Tout Cela, chargée de la famille et de l'enfance, qui est au centre des accusations. Une protection de l'enfance défaillante et des placements pratiqués avec une désinvolture scandaleuse, les explications à Dublin de Julien Lagache.
Ce sont des affaires qui choquent et qui font épisodiquement l'actualité, des affaires qui reliées les unes aux autres esquissent un tableau peu flatteur de la protection de l'enfance en Irlande. Il y a ce juge qui avait critiqué le placement temporaire d'un adolescent de 16 ans dans un foyer pour sans-abri, faute d'une meilleure option alors qu'il nécessitait un meilleur encadrement, ou cet autre garçon maintenu dans sa famille d'accueil malgré des soupçons d'agression sexuelle. Autant d'éléments qui posent question sur la capacité de l'institution à jouer son rôle, car il est aussi arrivé que des enfants soient retirés à leur famille par la police pour maltraitance avant d'y être replacé dans la foulée par tout cela. Manque de coopération ou d'échange d'informations, analyse erronée ou incomplète, les dysfonctionnements du système ont été sévèrement critiqués par un rapporteur spécial du gouvernement irlandais qui, en 2017, avait jugé certaines situations choquantes au-delà du concevable. Selon lui, certains enfants qui ont un besoin absolu de protection échappent sans doute au radar de tout cela, qui a encore reçu 50 000 sollicitations l'an dernier, et certains dossiers se retrouvent même sous la mention classée alors qu'il nécessiterait davantage de suivi. Des progrès restent à faire car ils sont pour l'instant insuffisants, affirme une nouvelle enquête publiée cette fois début janvier, qui note cependant des améliorations alors que le budget de l'agence vient d'augmenter pour la première fois en 5 ans d'existence. Il atteindra 786 millions d'euros en 2019. Tout cela ne peut rejeter la responsabilité de ces manquements sur l'empilement des dossiers liés à un manque d'effectifs ou de moyens, récemment jugé un organe de contrôle de l'État, mais pour l'instant aucune sanction n'a été prise contre des représentants de l'agence dont les décisions de placement ou de garde sont fréquemment contestées devant la justice.
En France, ce sont les travailleurs sociaux qui se mobilisent pour dénoncer des conditions de travail dégradées. Pas de temps à consacrer le temps minimum aux adolescents et enfants en danger, pas de suivi psychologique et une valse des placements qui aboutit dans le pire des cas à laisser des adolescents à la rue. Reportage dans le nord de la France, signé Lise Verbeck.
Dans la métropole lilloise, à Roubaix ou à Tourcoing, les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance ont l'impression douloureuse de ne pas pouvoir faire correctement leur travail. Et cela se répercute directement sur les enfants qui ont subi une rupture avec leurs parents et qui souvent souffrent d'un trouble de l'attachement, entraînant de sérieux problèmes au niveau émotionnel, social et affectif. Ces enfants, les éducateurs sont censés les protéger, mais par manque de moyens, cela devient de plus en plus compliqué, se désole Olivier.
Récemment, un jeune qui a une problématique de trouble du lien, enfin de l'attachement. Il a été placé en famille d'accueil. Ça s'est très mal passé parce que forcément, un trouble de l'attachement, l'enfant, le jeune va vérifier l'attachement, le lien qu'il peut y avoir entre lui et la famille d'accueil. Donc ça s'est pas bien passé. Un enfant qui a fugué aussi. Et je n'avais pas de solution à lui proposer. Donc il est resté en fugue. Le magistrat le savait. Et on devait trouver une solution.
Olivier a mis 15 jours avant de retrouver une famille d'accueil adaptée pour l'adolescent. Des cas comme celui-ci, les travailleurs sociaux en dénombrent de plus en plus. Ils ont chacun une quarantaine d'enfants à charge et ils ont fait le calcul. Ils ne peuvent consacrer que 3 heures par mois à un enfant. En 13 ans de métier, Marie a vu la situation se dégrader, notamment pour les adolescents.
C'est des enfants qui ont des troubles de l'attachement. Donc des fois, il faut qu'ils montrent que l'attachement, c'est compliqué. Et du coup, ils envoient tout valser vers 14-15 ans. Pour ces enfants-là... Le problème étant qu'ils étaient bien placés sur un lieu d'accueil adapté. À partir du moment où ils ont été exclus parce qu'ils ont posé des actes et graves qui ont conduit à leur exclusion, là on a commencé l'enfer. 2 nuitées par-ci, 3 nuitées par-là, une famille d'accueil une semaine, parce qu'en fait ils se sont retrouvés systématiquement partout en sureffectif. On se rend compte qu'on crée des troubles chez l'enfant, qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire pour eux et qu'on va en faire des adultes désinsérés, on a l'impression clairement de jouer sur leur destin et de leur faire du mal.
Cette impression de briser des destins est accentuée par le fait que beaucoup d'enfants placés ne sont pas assez suivis psychologiquement alors qu'ils en auraient besoin. Les centres médico-psychologiques du département censés accueillir les enfants de l'aide sociale à l'enfance sont saturés. Les listes d'attente pour consulter un psychologue s'allongent sous les yeux de Philippe qui travaille dans l'un de ces centres près de Lille.
Moi, j'ai déjà vu des enfants qui, à 4 ans, avaient déjà fait 3 familles d'accueil. De foyers, et c'est vrai que c'est des tornades qui sont extrêmement agitées, qui sont incapables de se poser. C'est des enfants qui vont parfois rejouer ce qu'ils ont vécu avec les adultes, le rejet qu'on leur inflige. Ils vont soit rejeter les adultes et les figures d'attachement, ou tout faire aussi pour se faire rejeter.
Philippe dénonce également le manque de formation des familles d'accueil qui ne sont pas assez armées pour faire face à certaines situations difficiles. Elles sont aussi trop peu nombreuses et il n'est pas rare qu'elles soient en suroccupation. Les places dans les foyers manquent aussi selon les travailleurs sociaux. Pour chaque lit qui se libère, un foyer peut recevoir jusqu'à 30 demandes de placement, ce qui crée des inégalités entre les enfants, selon Marie.
Eux, ils ont le choix, ils vont prendre l'enfant le plus calme, mais on peut comprendre, parce qu'ils ont des restrictions budgétaires aussi dans les foyers. Donc, il faut vous dire que, par exemple, un éducateur peut se retrouver seul avec 12-14 enfants, parce que son collègue est parti avec un seul enfant chez le médecin ou chez l'orthophoniste, enfin, peu importe. Et donc, du coup, forcément, quitte à ce qu'un éducateur doive gérer 14 enfants tout seul, on va essayer de faire en sorte que ce soit les plus calmes.
Pour le département du Nord et le vice-président chargé de la protection de l'enfance, Yves Duzard, il y a suffisamment de places en maison d'enfants. Il ne nie pas certaines difficultés, mais il faut, selon lui, mettre l'accent sur la prévention.
Si on veut éviter les placements judiciaires, il faut aussi donner le moyen d'aller travailler avec les travailleurs sociaux dans les familles. Et donc, quand il y a un signalement qui n'est qu'à l'état de signalement, d'aller travailler au quotidien avec les familles, d'aller leur donner les outils, de travailler, pourquoi pas, leur situation de foyer en termes d'économie, en termes de gestion de leur foyer, les relations qu'ils ont avec les enfants, les orienter vers des dispositifs et éviter qu'on en arrive à des situations bien plus préoccupantes où on est obligé d'extraire l'enfant temporairement ou un peu plus longuement.
En 3 ans, 700 lits pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance ont été supprimés et c'est cela qui a provoqué le mouvement des travailleurs sociaux, la baisse de trop. Le département, lui, parle de redéploiement, la moitié des places pour les mineurs isolés et l'autre moitié pour le soutien éducatif à domicile, ces éducateurs qui se déplacent dans les foyers où il y a eu un signalement. Ce basculement vers la prévention, les travailleurs sociaux ne sont pas contre, au contraire, mais ils dénoncent sa mise en œuvre trop rapide et pas assez préparée.
La prévention, c'est un travail qui se fait de longue haleine. C'est pas sur 5 ans, c'est peut-être sur 10 ans. Il faut garder ces 700 places, on en a besoin, et on met les moyens humains sur la prévention. Et après, on verra que la prévention, elle va marcher. Et petit à petit, on verra qu'il y aura de moins en moins de judiciarisation. Moins les juges seront saisis, et moins on aura besoin de places en hébergement.
La section régionale du syndicat de la magistrature a apporté son soutien aux travailleurs sociaux. Les juges pour enfants s'inquiètent des décisions de placement exécutées avec retard, faute de place.
L'économie sociale et solidaire, un défi en Hongrie où l'on ne compte que 3000 coopératives sociales. Les obstacles administratifs et politiques sont nombreux. Pourtant, deux jeunes Hongrois ont décidé de monter une société de livraison qui n'emploie que des autistes, des employés particuliers dont les troubles du comportement ne sont plus un frein à leur employabilité. Écoutez le reportage de Florence Labruyère.
Nous sommes dans les bureaux d'une entreprise de coursiers dans le 7e arrondissement, un quartier populaire de Budapest. Sur les tables, des piles de boîtes, des paquets d'affiches et de prospectus publicitaires. Csilla Molnár, 24 ans, remplit son chariot. Elle s'apprête à partir pour livrer ses publicités dans des cafés, des restaurants et des magasins.
J'ai une liste des endroits où je dois aller. J'y vais à pied et à chaque fois je dépose les affichettes et les prospectus sur les présentoirs et ensuite je vais à l'adresse suivante.
Cette compagnie de coursiers s'appelle Un Grand Pas en Avant. Elle est unique en Hongrie. C'est la seule à employer des personnes autistes comme Csilla.
J'aime beaucoup marcher et aller dans tous ces endroits. Ce travail me plaît. Ce qui est difficile pour moi, c'est de rencontrer des gens nouveaux. Ça me stresse. Mais si je vois qu'ils m'acceptent, je suis plus relaxe.
Károly Mucsi, un grand gaillard de 45 ans, souffre d'une des formes d'autisme. Comme Csilla, il est salarié à mi-temps par la compagnie de coursiers.
J'ai travaillé 2 mois chez Auchan comme magasinier. Mes collègues se moquaient tout le temps de moi. Alors j'ai craqué et je suis parti. J'ai aussi travaillé dans une société qui appartient à ma mère. Ici, c'est le premier job où je sens qu'on m'accepte et qu'on me comprend.
Levente Erős est un jeune entrepreneur de 31 ans. C'est lui qui est à l'origine de cette société.
J'ai étudié à l'Université d'Europe centrale, qui m'a donné une bourse pour me spécialiser en économie sociale. Grâce à un programme d'échange, je suis parti au Canada, à Toronto, et pendant que j'étais là-bas, j'ai vu énormément de projets utiles à la société. C'est ce qui m'a donné l'idée d'embaucher des personnes à capacité réduite et de leur donner un véritable emploi dans le secteur de la distribution.
Pour Christa Scholler, cofondatrice de cette compagnie de coursiers, la livraison est un métier tout à fait adapté aux autistes.
C'est une tâche qui convient aux autistes, car presque chaque semaine, il faut effectuer des livraisons aux mêmes endroits. Ces adresses deviennent des lieux familiers. Cette routine a quelque chose de rassurant pour les autistes. Ils se sentent en sécurité.
La compagnie fondée par Levente et Christa est une coopérative sociale. Ce statut permet de payer un minimum d'impôts. Mais le chiffre d'affaires est encore trop faible pour payer les salaires des coursiers. Et bien qu'elle emploie des personnes handicapées, la coopérative n'a pas le droit à des subventions d'État. Elle est obligée de passer par une fondation pour rémunérer ses livreurs.
On travaille en coopération étroite avec cette fondation qui paie nos coursiers. C'est un arrangement complexe. Le problème des ONG hongroises est que, souvent, on n'a pas les ressources suffisantes pour gérer notre personnel. On est débordé par la recherche de fonds et par la paperasse bureaucratique. Ce n'est pas facile. Le système est très chaotique en Hongrie.
Des lois compliquées et contradictoires font que l'économie solidaire a du mal à décoller. Juliana Kish, chercheuse à l'Université Corvinus de Budapest.
Les entreprises solidaires ont souvent du mal à être viables financièrement et à accéder à des subventions publiques. Il y a un autre problème, c'est le cadre législatif. Il manque de cohérence et l'État n'a pas de stratégie à long terme. Cet environnement n'est pas très favorable à l'économie solidaire et elle n'est pas très développée.
Malgré tout, la coopérative fondée par Levente et Christa souhaite se développer. Elle compte former peu à peu ses coursiers autistes à faire des livraisons imprévues. À retirer un paquet dans les bureaux d'une entreprise qu'ils ne connaissent pas pour le livrer chez un particulier. Le but est de leur apprendre progressivement des tâches plus difficiles pour les intégrer encore un peu plus au monde environnant.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI.